France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Une coupure massive d'électricité perturbe toute la péninsule ibérique. Nous joindrons notre correspondante en Espagne, Marie-Hélène Ballesteros, mais le Portugal est aussi touché. Le Kremlin annonce 3 jours de trêve sur le front en Ukraine du 8 au 10 mai. Une décision unilatérale canalisera Sylvain Tronchet depuis Moscou. 3 jours après le meurtre d'un jeune Malien dans la mosquée de la Grande Combe dans le Gard, une information judiciaire est ouverte pour meurtre avec préméditation et à raison de la religion. Le gouvernement se défend d'avoir tardé à dénoncer un crime anti-musulman. Nous écouterons le chercheur Arwes Seniger. Et puis nous parlerons théâtre dans ce journal à l'occasion de la Nuit des Molières. Nous évoquerons avec Benoît Grossin les inquiétudes du secteur, théâtre public et privé. Depuis la fin de la matinée, l'ensemble de la péninsule ibérique est touché par une coupure de courant massive. Une partie du sud de la France a été brièvement affectée, mais l'Espagne et le Portugal sont quasiment paralysés. Je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage du musicien franco-brésilien Joaquim Alves. Il vit dans la banlieue de Porto. Il préparait le déjeuner avec sa famille lorsqu'il a été surpris par la coupure.
Franchement, on peut rien faire. Voilà, donc les stations d'essence sont fermées là actuellement. Les centres commerciaux sont fermés, les boutiques de rue, etc. sont fermées, parce qu'en fait, bah, forcément, les TPE ne marchent pas pour payer, etc. Donc, c'est cool, parce que j'avais un petit peu d'argent sur moi pour payer. On peut même pas accéder à notre compte bancaire, quoi. Vous voyez, on peut même pas retirer de l'argent, on peut pas payer, on peut rien faire, quoi. Il n'y a pas de prévision, apparemment, de retour à la normale. Forcément, les autorités, etc. nous disent de pas trop sortir. Et si on est au travail, etc., bah, retourner à la maison, parce qu'en fait, rien ne fonctionne. Même les feux rouges, etc. Enfin, c'est le chaos pas possible. Les polices sont invitées à sortir, en fait, de leur commissariat, etc., pour aller dans les rues, quoi. Aider les personnes et surtout la circulation, parce que c'est vraiment chaotique, quoi. On pense soupir, en fait. En ce moment, on est un petit peu en temps de guerre, enfin, avec tout ce qui se passe, quoi, dans le monde. Est-ce qu'il y a une attaque? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce genre? En fait, on peut imaginer tous les scénarios parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Effectivement, c'est digne d'un film, en fait.
Joaquim Alves se joint par Lisa Villy. Cette panne d'électricité géante paralyse le trafic ferroviaire. Les vols sont aussi perturbés. À ce stade, rien n'indique qu'il puisse s'agir d'une cyberattaque, précise le président du Conseil européen, Antonio Costa, qui souligne que les gestionnaires de réseaux des deux pays s'efforcent de trouver la cause de ces pannes et de rétablir l'approvisionnement en électricité. En Espagne, le courant est à présent revenu dans plusieurs zones du nord, du sud et de l'ouest. Nous retrouvons notre correspondante à Madrid, Marie-Hélène Ballesteros.
Tout a démarré vers 12h30. Ce qui ressemblait à une petite coupure d'électricité s'est avéré être une panne de courant massive qui a touché l'ensemble du pays sauf les archipels des Baléares et des Canaries. On n'a jamais vu rien de tel en Espagne. Le chaos s'est vite propagé un peu partout en touchant tous les services, métros, aéroports, trains, banques, supermarchés, usines, feux de circulation et un long, etc. À cette heure-ci, on ignore toujours quelle est la cause de cette gigantesque panne. D'après le journal El País, l'Institut national de cybersécurité est en train de vérifier qu'il ne s'agit pas d'une cyberattaque. Le gouvernement de Pedro Sánchez a tout d'abord convoqué une réunion de crise au siège de l'opérateur national espagnol Red Eléctrica de España. Et par la suite, Sánchez a présidé une réunion extraordinaire de sécurité nationale depuis le palais de la Moncloa. Pour l'heure, les autorités espagnoles ne se sont toujours pas exprimées, tandis que la population essaie de prendre son mal en patience. Dans certaines régions comme au Pays Basque, l'électricité a été rétablie, mais le chaos règne toujours dans de nombreuses villes, comme à Madrid, où quasiment rien ne fonctionne. Le métro et les trains sont à l'arrêt, et les gens tentent de rentrer chez eux comme ils le peuvent, dans des bus bondés, des taxis débordés ou en voiture, alors que les feux de circulation ne fonctionnent toujours pas.
Marie-Hélène Ballesteros, correspondante de France Culture en Espagne. Ce blackout géant survient le jour où la souveraineté énergétique de la France est en débat à l'Assemblée nationale. Un débat sans vote s'est ouvert en début d'après-midi. François Bayrou l'avait proposé en réponse à une demande de députés de tous bords qui voulaient se faire entendre sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE qui définit notre feuille de route énergétique pour les 10 prochaines années. Le Premier ministre souhaite que le décret définissant la PPE soit publié avant la fin de l'été. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de l'Assemblée. Et alors que plusieurs partis critiquent cette programmation pluriannuelle et que le Rassemblement national fait planer la menace d'une censure sur le sujet, François Bayrou, lui, tente la carte de l'ouverture, Rosalie.
Oui, face à un hémicycle désespérément vide, le Premier ministre plante son décor, celui de l'urgence à agir pour notre souveraineté, celui d'une France qui doit sortir de sa dépendance aux énergies fossiles, celui aussi d'un gouvernement ouvert à la discussion.
Dans ce débat, le gouvernement n'a rien à vendre. Aucune thèse à faire triompher sur les autres. Cette programmation pluriannuelle de l'énergie n'est pas écrite à l'avance. Et avant la rédaction finale, chacun pourra s'exprimer.
Lui le premier, s'il ne nie pas l'importance du développement des énergies renouvelables, François Bayrou prône pour elle un soutien raisonné.
Force est de constater que nous ne maîtrisons pas la filière photovoltaïque.
Il affiche ses réserves sur le solaire, donc sur l'éolien terrestre aussi.
Son acceptabilité diminue à mesure que le nombre d'éoliennes augmente. C'est pourquoi son développement ne peut être que mesuré.
Même chose pour l'éolien en mer, mais la mesure de François Bayrou reste insuffisante pour son principal adversaire du jour, le RN, et sa présidente de groupe, Marine Le Pen.
Nous refusons que vous doubliez les éoliennes sur Terre, couvriez la France de panneaux solaires chinois et défiguriez nos côtes avec les éoliennes en mer. Nous refusons cette décroissance énergétique folle de 17% d'ici 2030. Nous condamnons cette PPE qui aggrave ces politiques injustes et ruineuses.
Le Rassemblement national qui continue de faire planer la menace de la censure sur cette programmation pluriannuelle de l'énergie m'écrit déjà victoire sur un point. Le Premier ministre repousse de quelques semaines la publication du décret prévu maintenant d'ici la fin de l'été après l'examen, et c'est ce que le RN voulait, d'une proposition de loi sur le sujet.
Rosalie Lafarge à l'Assemblée nationale avec Florent Bujon. La Russie annonce une trêve sur le front en Ukraine. Elle débutera le 8 mai à l'occasion de la commémoration de la victoire sur l'Allemagne nazie et durera 3 jours. Le Kremlin décrète cette trêve unilatéralement et estime que la partie ukrainienne doit suivre cet exemple, Sylvain Tronchet.
C'est une nouvelle trêve, comme celle décrétée pour Pâques qu'annonce le Kremlin, cette fois-ci avec 10 jours d'avance. Moscou souhaite que les hostilités s'arrêtent le temps des célébrations du 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, tout en prévenant que les forces russes fourniront une réponse adéquate en cas de violation de cette trêve. À Moscou, le président de la Douma n'hésite pas à comparer le 9 mai à un jour saint qui justifierait l'arrêt temporaire des combats, persuadé, dit-il, que la population ukrainienne sera d'accord. Mais les motivations de la Russie sont peut-être plus diplomatique. Moscou s'apprête à recevoir une 20aine de chefs d'État le 9 mai, parmi lesquels le chinois Xi Jinping, le brésilien Lula et même un représentant de l'Union européenne, le slovaque Robert Fico. 3 jours de trêve permettraient de s'assurer que leurs avions puissent se poser et redécoller sans problème et leur éviteraient d'être présents aux côtés de Vladimir Poutine si une frappe de l'armée russe faisait une nouvelle fois des victimes civiles. Washington a critiqué cette initiative, disant souhaiter un cessez-le-feu permanent en Ukraine et pas seulement une trêve temporaire.
Et à Kiev, on se demande pourquoi attendre le 8 mai et pourquoi 3 jours seulement. Donald Trump a réitéré aujourd'hui sa volonté d'annexer le Canada, de faire disparaître la frontière entre les deux pays. Une déclaration d'autant moins appréciée qu'elle intervient le jour même des élections législatives au Canada. Le principal enjeu de ces élections anticipées est d'ailleurs de savoir qui, de l'actuel Premier ministre Mark Carney, successeur de Justin Trudeau, et du conservateur Pierre Poilievre, sera le plus à même de résoudre la crise sans précédent avec le voisin américain. On retrouve Étienne Monin à Toronto.
Clairement, cette élection est dirigée contre le président américain. Nous sommes devant le centre communautaire Canoe Landing et l'un des premiers Canadiens à sortir donne la tonalité.
J'ai voté contre Trump parce qu'il essaye de prendre notre pays.
Le président américain a changé le cours des choses. Les libéraux qui étaient usés par 10 ans de pouvoir sont aujourd'hui donnés favoris dans les sondages. Ça se confirme pour Ahmad dans le bureau de vote.
Si c'était pas Trump, personnellement, je pense que les conservateurs auraient peut-être gagné. Mais étant donné que tout ce qui se passe avec Trump, donc je vois qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Si c'était pas Trump, ça aurait été différent.
Le contexte a un peu forcé la main des électeurs. Ils sont en train de choisir la figure qui va défendre leur pays face aux géants américains, explique Steven.
Pour moi, la chose la plus importante pour cette élection, c'est le Canada, c'est le pays.
Cette élection ressemble donc à un duel entre libéraux et conservateurs. La gauche risque d'être écrasée. Cindy, qui vote pour cette aile gauche, s'y prépare.
Je pense que la gauche est en difficulté, mais bon, je vote en fonction de ma conscience. À mon avis, les libéraux vont gagner. Et ça me va, vu le contexte.
Pendant la campagne, les libéraux ont dramatisé l'enjeu Trump. Les conservateurs ont misé sur le pouvoir d'achat et la sécurité.
Étienne Monin à Toronto avec Christophe Papon à la technique. Le meurtrier d'Aboubacar Cissé, jeune malien tué vendredi dans la mosquée de la Grande Combe dans le Gard, nie avoir agi par haine de l'islam. Selon son avocat, il a tué la première personne qu'il a trouvée sur son chemin. C'est pourtant bien pour meurtre avec préméditation et à raison de la race ou de la religion qu'une information judiciaire a été ouverte. L'enquête sera suivie par un juge d'instruction du pôle criminel de Nîmes. Le gouvernement, accusé par la gauche de ne pas traiter de la même façon un crime antisémite et un crime contre un musulman, réfute aujourd'hui toute différence de traitement. Mais Awais Zeniger, maître de conférences en sciences politiques à Lyon et spécialiste du monde arabo-musulman, n'est pas convaincu. Écoutez-le.
Je crois que fondamentalement, ce peu de réaction traduit une forme d'insensibilité par rapport à ce que ressentent et vivent les musulmans. Il y a depuis plusieurs années le sentiment chez une bonne partie de musulmans, y compris très intégrés socialement et économiquement, d'une forme de solitude morale par rapport aux réactions politiques face à des discours islamophobe. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par islamophobie? C'est une essentialisation négative de l'appartenance réelle ou supposée à l'islam. Et ce sentiment crée chez les musulmans l'impression, qui est réelle à bien des égards, d'un traitement différencié en fonction de l'appartenance religieuse réelle ou présumée. Quand il n'y a pas de réaction par rapport aux discriminations, au vécu des musulmans, c'est une forme d'acceptation, d'acceptabilité, fût-elle implicite, de cette islamophobie. En fait, il y a une islamophobie d'atmosphère. Alors, peu importe le terme qu'on utilise, on passe trop de temps sur le contenant plutôt que s'intéresser au contenu. Un contenu, ce sont ces discours et ces actes tournés contre les musulmans. Et très souvent, je le constate régulièrement, les polémiques autour du mot cachent la prise en compte de la réalité des phénomènes d'islamophobie.
Le chercheur Awais Zeniger répondait à Emeline Bonavent. Un rapport présentant des mesures contre l'antisémitisme a été remis aujourd'hui à la ministre chargée de la lutte contre les discriminations. À cette occasion, Aurore Berger a fait référence justement au meurtre de la Grande Combe. La ministre a insisté sur l'esprit universaliste du rapport qu'elle juge déclinable face aux autres formes de racisme. Le chômage a encore progressé au premier trimestre en France, mais les chiffres sont à prendre avec précaution compte tenu de l'inscription automatique désormais sur les listes de France Travail des bénéficiaires du RSA. La hausse réelle des chômeurs en catégorie A, c'est-à-dire sans activité, est limitée en réalité à 0,8%. Il est toujours plus difficile d'accéder à un logement social. L'an dernier, plus de 90% des demandes n'ont pas été satisfaites, selon les chiffres publiés par l'Agence nationale de contrôle du logement social. Le taux d'attribution des logements sociaux est tombé à 9,4% contre 10,1% en 2023 et 15,2% en 2016, Catherine Pétillon.
Si le nombre d'attributions continue de chuter, c'est parce que dans le même temps, les demandes sont en augmentation, alors que le nombre de logements sociaux disponibles, lui, est en baisse. Première et principale cause, le manque de construction, allait au plus bas depuis 50 ans, ne cesse d'alerter l'Union sociale pour l'habitat et les associations. Autre raison, identifiée par l'ANCOLS, la baisse du taux de rotation des locataires au sein du parc social. Et si les occupants restent, c'est notamment parce que les parcours résidentiels sont enrayés. Il leur est devenu extrêmement difficile d'accéder à la propriété ou même de louer dans le parc privé, où les loyers sont souvent deux voire trois fois plus chers. Et cela encore plus pour les personnes vieillissantes, lesquelles représentent une part en hausse du parc social. À noter que la situation est particulièrement difficile pour les jeunes. Ceux qui accèdent à un logement social sont de plus en plus âgés, alors que l'âge moyen des demandeurs, lui, reste inchangé. Enfin, 24 000 logements ont été attribués l'an dernier au titre du DALO, c'est le droit au logement opposable. Ce chiffre est stable depuis 2001 et le temps d'attente est en moyenne de 4 ans pour les ménages concernés. Mais le nombre de personnes reconnues prioritaires pour le logement social ne cesse lui aussi d'augmenter. Autrement dit, le taux d'attribution aux ménages dits DALO, c'est-à-dire ceux qui en ont le plus besoin, est lui aussi en baisse continue.
On apprend la mort de l'économiste Michel Alietta, spécialiste des questions financières et monétaires. Il avait 87 ans, professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Paris-Nanterre, conseiller au Centre d'études prospectives et d'informations internationales, ainsi qu'à France Stratégie. Il est resté actif jusqu'au bout de sa vie, Marie Vienno.
Oui, c'est dans les années 70 que Michel Alietta a publié sa thèse qui deviendra fondatrice sur la régulation du mode de production capitaliste. Toute sa vie, ce polytechnicien, passé par l'INSEE, s'est attaché à analyser les institutions mises en place pour réguler le capitalisme et parmi elles, la monnaie, que les théories monétaristes, encore dominantes aujourd'hui, considèrent comme neutres. On écoute Michel Alietta l'expliquer lui-même. Il était interrogé par Caroline Brouet en 2016.
Vous avez une théorie dominante qui est une théorie qui dit La société n'existe pas de point de vue économique, n'existe que des individus. Ces individus connaissent leurs désirs et ils connaissent les biens à partir desquels ils agissent, ce qu'on appelle la théorie de l'utilité des biens. Elle aboutit à faire que la monnaie n'existe pas, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun effet sur les prix relatifs entre les biens. Et le paradoxe, c'est ce qui se passe quand vous avez des situations de crise. C'est-à-dire la monnaie devient omniprésente et obsède tout le monde, et cette théorie n'a rien à en dire.
Alors, de cette pensée que l'économie n'est pas que le marché, naîtra l'école de la régulation dans laquelle se sont engouffrés de nombreux économistes dits hétérodoxes. Outre ses publications sur la monnaie, la Chine, les dérives du capitalisme financier ou la zone euro, Michel Aglietta est également très préoccupé par la crise climatique et jusqu'au bout, il a proposé des solutions pour faire en sorte que le système financier favorise la transition écologique via la BCE ou via la titrisation. Ses collègues au CEPI où ces derniers mois encore, il arrivait dès 7h du matin, du lundi au jeudi, pour éplucher les journaux et les décisions de la Commission européenne et écrire ses papiers, salue une vitalité et une jeunesse hors normes. Le lendemain de l'élection de Trump, raconte l'un d'eux, c'était lui le plus inquiet. La journaliste économique que je suis se souviendra de quelqu'un toujours très patient qui lui a permis de comprendre ce qu'était la macroéconomie financière, sans jamais perdre la patience et toujours avec cet optimisme. D'ailleurs, quand Michel Aglietta écrit sur l'Europe, il titre « Sortir de la crise et inventer l'avenir ».
Merci Marie Viennot. La 36e nuit des Molières, cérémonie de récompense du théâtre français, public et privé, se déroule ce soir aux Folies Bergères en présence de la ministre de la Culture, Rachida Dati. Cérémonie retransmise sur France 2. Dans le contexte des coupes budgétaires qui affectent le spectacle vivant, des prises de parole politiques sont attendues. Et malgré des succès en salle, il y a en ce moment beaucoup d'inquiétudes. Bonsoir Benoît Grossin.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à toutes et à tous.
Alors que le théâtre public est confronté à d'importantes diminutions des subventions, le théâtre privé se porte bien en apparence, Benoît.
Avec 8 635 000 billets vendus en 2024, si l'on en croit les derniers chiffres communiqués par l'ASTP, l'Association pour le soutien des théâtres privés, la fréquentation a progressé de 8% et le nombre de représentations près de 76 000 en forte hausse, plus 34% par rapport à 2023.
Ce sont même de meilleurs résultats qu'avant la pandémie.
La crise du Covid-19 pour le théâtre privé semble bien effacée, oui, mais ces résultats masquent d'inquiétantes disparités. Selon Fabrice Roux, le président du syndicat La Scène Indépendante, qui regroupe un peu plus de 400 producteurs, compagnies et lieux de spectacle en France.
Pour moi, certains spectacles marchent très bien, mais c'est sans doute l'arbre qui cache la forêt. La fréquentation de l'humour, des comédies musicales sont de gros contributeurs, que c'est eux qui masquent un peu la réalité. Comment on peut dire que le théâtre va bien alors que certains théâtres restent fermés 3 jours par semaine ? Quand les tournées qui faisaient 80, 90, 100 dates avant font aujourd'hui 20 dates, 25 dates, quand vous avez une tournée de 30 dates, vous dites c'est formidable. Je pense que les chiffres ont artificiellement monté, qu'on risque d'avoir des mauvaises surprises et que sur 2025 et 2026, se rendre compte que le théâtre va pas bien du tout. Que, en dehors des grosses machines de théâtre qui marchent très bien, il y a quand même beaucoup de spectacles qui tirent la langue.
Avec des réalités très différentes entre l'exploitation des théâtres à Paris ou en région, d'où une réflexion qui se dessine au sein de la STP pour une meilleure distribution et répartition des aides pour le théâtre privé, ces aides qui ont atteint 13,7 millions d'euros en 2024.
Et une question se pose également, Benoît, sur la diffusion des spectacles privés dans les salles publiques.
La STP, l'Association pour le soutien des théâtres privés, fait état de difficultés croissantes des producteurs pour faire jouer leurs spectacles dans le réseau des salles publiques de régions confrontées à la réduction des budgets pour la culture, pays de la Loire en tête. Une vague de coupes sans précédent, évaluée globalement de sources syndicales à près de 66 millions d'euros, toutes régions confondues, avec des conséquences préoccupantes. Analyse le chercheur au CNRS Emmanuel Négrier.
Il est évident que la région Pays de la Loire, qui a décidé de frapper d'un coup et très fort, rassemble un certain nombre de situations de quasi-cessation de paiement. Mais dans d'autres régions, par exemple la région Occitanie, le Printemps des Comédiens, un grand festival de spectacles vivants, a été obligé de réduire sa programmation. Ces structures disposent de certaines réserves, elles permettent éventuellement de survivre une année, mais si l'on en croit les discours publics, les logiques de restrictions budgétaires ne sont pas seulement pour cette année, donc le problème est encore plus dramatique, je dirais, pour les années à venir.
Et le premier syndicat des entreprises du spectacle vivant public, le Syndéac, qui regroupe les scènes nationales et centres dramatiques nationaux notamment, estime qu'à chaque coupe budgétaire de 20 000 euros, c'est un emploi qui est menacé, ce qui représenterait au total quelques 7 500 emplois en péril aujourd'hui. Il fait nul doute que la ministre de la Culture, Rachida Dati, sera interpellée à ce sujet ce soir lors de la 36e nuit des Molières. Et avant même le coup d'envoi de la cérémonie, la CGT Spectacle veut se faire entendre par un rassemblement qui va débuter très bientôt, Aurélie, à 18h30, tout près du Théâtre des Folies Bergères.
Merci Benoît Grossin. Votre dossier, le spectacle vivant au défi des coupes budgétaires, est à retrouver sur le site de France Culture. Le soleil s'imposera encore demain sur la majeure partie du pays. Quelques averses et orages sont possibles sur le quart sud-est l'après-midi. Les températures seront souvent estivales, comprises au petit matin entre 5 et 11 degrés, l'après-midi entre 23 et 26. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.